bonsoir ou bonjour, je ne sais pas ce qu'il faut dire, à 16h, heure très nouveau pour moi, très nouvelle, pardon, chers auditeurs. Bonsoir en tous les cas à ceux qui nous écoutent le jeudi à 23h. Ces répliques du Nouveau Conservateur vont être aujourd'hui consacrées à un sujet lancinant qui revient sans cesse dans l'actualité et dans nos esprits et dans nos soucis, la Russie. Et cette fois, nous allons parler de la Russie dans sous un angle un peu tragique. On a beaucoup entendu dire, Madame Karadankos par exemple, que la Russie était une nation doublée d'un empire, mais d'un empire fragile. Madame Karadankos avait annoncé il y a, je crois, une cinquantaine d'années, dans les années 70 et 80, une bonne quarantaine d'années, dans un ouvrage qui s'appelle « L'Empire éclaté », que l'Empire allait s'effondrer par la périphérie. Ce n'est pas exactement ce qui est arrivé. Même elle, qui connaissait bien la Russie, je crois qu'elle s'est trompée. Finalement, pas mal de républiques, y compris les républiques d'Asie centrale, sont restés assez fidèles, en tous les cas politiquement, bien qu'indépendantes, à l'alliance russe. Ce qui prouve que cette Russie que tant de puissances ont tenté de détruire, rappelons, il y a eu la Suède pour commencer, il y a plusieurs siècles, et puis ensuite il y a eu les monnaies françaises et la fameuse guerre que Napoléon a eu le malheur de déclarer à la Russie, malheur pour tout le monde, pour la Russie et pour ses pauvres combattants. Perdu beaucoup de monde. Et puis après, Hitler s'en est pris à la Russie aussi pour la dépecer. Et bien entendu, tous les empires s'en prenant à la Russie, l'empire des États-Unis n'a pas fait exception. Bon, mais d'ailleurs, c'était inévitable. J'ai le souvenir que Tocqueville écrit, je crois, je pense que c'est dans la démocratie en Amérique que tôt ou tard, les jeunes États-Unis du 19e siècle, qui l'analysaient, seraient confrontés à la grande puissance russe, qui est au-delà des mers, à la fois d'un côté et de l'autre, mais encore plus près du Pacifique, avec cet énorme enjeu qu'est la Sibérie. Et nous allons en parler aujourd'hui avec un jeune chercheur qui me plaît beaucoup, parce que c'est un chercheur qui cherche, qui trouve, qui dit des choses clairement, qui a publié un livre, alors un peu volumineux, mais ça n'empêche pas de l'acheter, en tous les cas, par Internet, parce qu'on ne le trouve pas dans toutes les librairies. Et ce jeune chercheur de talent s'appelle Nicolas Taki. Bonjour Nicolas Taki.
Bonjour Paul-Marie Couteau, merci de me recevoir.
Écoutez, je le fais d'autant plus volontiers que votre livre m'a passionné. Alors, il y a beaucoup de notes, il y a un appareil scientifique, comme on dit, admirable, sur lequel peut-être les noms universitaires peuvent passer. mais ce livre, de toute façon, m'a attiré en raison de son titre inquiétant.
Le projet atlantiste de démantèlement de la Russie.
Oui.
En sous-titre, un plan contre la paix du monde.
Voilà, c'est long ça. Hein, bon, alors, le projet atlantiste de démantèlement de la Russie, vous allez nous montrer comment, après les Allemands d'ailleurs, les États-Unis d'Amérique, je m'empêche de dire les Américains. Vous savez que les Américains ont voulu s'appeler les Américains au 19e et tout le monde en leur emboîte le pas, mais enfin, l'État dont la capitale est Washington, ça s'appelle les États-Unis, ça ne s'appelle pas l'Amérique, incluant d'aventure le Groenland, jusqu'à la Terre de Feu, l'Argentine, le Mexique.
Qui sait, peut-être un jour.
Le Canada, hein. Je ne crois pas. Vous savez, la Chine s'installe beaucoup en Amérique du Sud. Et elle va pas sans doute.
En effet, oui.
Elle va sans doute encercler par le sud son grand adversaire états-unien en prenant son temps. Vous savez, c'est un boa qui avance lentement, mais qui est capable de vous étrangler.
D'où la différence de vision court terme d'un côté, long terme de l'autre.
Et voilà que vous avez perçu. Alors, faites mon admiration. J'aime les jeunes de votre âge, une trentaine d'années, qui cherchent, qui ont des intuitions, qui sont sérieux. On dit trop de mal. Moi aussi, quelquefois. L'inculture de bien des jeunes, mais quand ils sont cultivés, comme ils sont sérieux, et comme ils voient clair, et comme ils écrivent bien, car votre livre de surcroît est bien écrit. Et nous allons entendre dans une petite conversation combien votre pensée est claire. Auparavant, si vous m'y autorisez, je voudrais dire
mais bien sûr.
Que, une petite incise, mon cher Nicolas, car nous ne sommes que deux dans le studio. Je voulais avoir Vladimir Fedorovski. Nous l'aurons, mais au téléphone, car il a quitté Paris, je crois hier ou avant-hier, donc il ne nous rejoint pas dans ce studio. Évidemment, il connaît la thèse de votre livre, j'en ai parlé avec lui, et nous ferons un petit point en fin d'émission sur les perspectives qui s'ouvrent à nous, peut-être des perspectives de paix en 2026, grâce aux élections des mi-terme. Trump ne pense qu'à ça.
Et oui.
Il veut arriver avec une paix à peu près solide, la paix qu'il a promise. Ce qui met d'ailleurs Poutine dans une situation de force, on va en parler, parce que comme Poutine sait très bien que son adversaire est obligé de conclure, vous savez, c'est la pire manière d'aborder une négociation.
Encore une fois, le court terme d'un côté, le long terme de l'autre.
C'est ce que vous disiez à l'instant, Nicolas.
Oui.
Exactement.
Poutine n'a jamais oublié que c'est un joueur d'échecs.
Et il prend son temps.
Et à contrario de l'Américain qui joue au poker. On ne joue pas dans la même catégorie.
Et puis surtout, il a des élections, l'Américain.
Et
donc,
oui.
L'États-Unien, vous voyez, on retombe dans l'ornière, mon cher Nicolas. Et le fait est que, au fond, les choses se passent plutôt bien pour la Russie, mais elle a frôlé la catastrophe, nous allons en parler avec vous. Je voulais simplement, si vous me permettez cette incise, car on me tire quelquefois les oreilles, les répliques du nouveau conservateur ne parlent pas très souvent du nouveau conservateur. Vous savez que nous sommes passés mensuels, c'est un signe de succès. Ce fut souvent longtemps une revue qui compta, je crois, 15 numéros trimestriels. Et depuis un an, nous sommes mensuels et le numéro 27 du mois de janvier est paru il y a une quinzaine de jours. Nous sommes un peu en retard, il est paru vers le 20 janvier. Et le numéro 28, celui du mois de février, est sous presse. Il sera consacré, il est consacré, parce qu'il est pratiquement publié maintenant, à la question des élections municipales et de l'organisation territoriale de la France. Alors c'est un peu technique, mais je crois qu'on a fait un beau numéro avec de beaux entretiens avec des maires, notamment le maire, le magnifique maire de Montfermeil, dont j'oublie le nom au moment de le citer. Pourtant, un de mes amis, ça va me retenir. Voilà que l'âge me gagne. Le maire de Montfermeil, qui réussit le tour de force à faire vivre, je crois, 45 nationalités dans sa municipalité de Montfermeil. Il est candidat en mars prochain et je crois que ça sera son cinquième mandat parce qu'il a réussi très bien. Il est ou il a été membre du PCD. C'est un magnifique chrétien, un magnifique conservateur qui a remplacé, qui a succédé à Pierre Bernard. Et Xavier Lemoine, voilà, je parlais le temps de retrouver son nom. Mais il n'y a pas que Xavier Lemoine qui a contribué à ce numéro sur les élections du mois de mars. Certes, je suis très prudent sur l'utilité des élections, surtout sur l'élection cardinale, celle du président de la République. Je considère que, hélas, le choix n'est plus fait par les Français depuis longtemps. Il est fait ailleurs, il est imposé. Et peut-être qu'il ne faut pas mettre aux enchères, aux enjeux de la démocratie avec ses aléas, la tête de la République. Je serais plutôt partisan d'une tête constante, impartial et dévoué entièrement au bien public, tels que furent nos rois. Mais enfin, les élections municipales, c'est autre chose. Mes chers amis, je crois qu'il faut les prendre au sérieux. Et comme nous le disons avec mon cher Guillaume de Thieulois dans notre éditorial, c'est le moment pour les Français, puisque la tête est tellement défaillante, que l'État est tellement défaillant, de prendre leurs responsabilités là où ils le peuvent, c'est-à-dire dans leur commune, à l'échelle locale.
Être au plus proche des
citoyens. Dans leur ville, voilà. Et nous avons d'ailleurs très belle réflexion de Thierry Boutet, peut-être que ce nom dira quelque chose à beaucoup d'entre vous, penseurs chrétiens, sur la subsidiarité. Alors c'est le pire et le meilleur, la subsidiarité, mais tel qu'il la formule, je pense qu'on peut y adhérer et renvoyer le pouvoir autant que possible dans des structures moins technocratiques, surtout moins sujettes aux influences extérieures que sont les municipalités, à condition, chers amis, que les citoyens surveillent ce qui se passe autour d'eux, participe à la vie communale. Et c'est peut-être une des façons, puisqu'une des grandes forces de la France, je ne dirai jamais assez, c'est son territoire très vaste, le plus grand territoire d'Europe avec celui de la Russie, de l'autre côté.
Et une diversité au niveau de sa géographie.
Oui, comme pour la Russie d'ailleurs, justement. Et une diversité qui a pu longtemps être aussi, comme pour la Russie, une faiblesse, parce qu'on peut jouer des séparatismes contre l'État central. La Russie n'est pas tout à fait à l'abri de tout cela, c'est bien notre sujet. Alors, je voulais vous dire qu'est en vente actuellement le numéro de janvier, je crois qu'il est paru le 20 ou le 21 janvier, que nous avons consacré à la question du Proche-Orient, ce que nous appelons nous autres conservateurs et chrétiens et souverainistes, la Terre Sainte. Alors, il y a un très très bon entretien avec Alain Juillet qui explique que Israël peut gagner beaucoup de batailles, mais que finalement elle perdra la guerre et que le sang des, c'est le titre de son entretien, le sang et la misère des Palestiniens ne sont pas une solution durable au Proche-Orient. Voilà, c'est Alain Juillet qui a été l'ancien, pendant plusieurs années sous Chirac, responsable des renseignements, comme on dit, parle d'or et parle en expert. Nous avons aussi un autre expert, Roland Hureau, qui examine la solution à deux États, ce qu'en dit la Bible, sous l'angle d'une lecture biblique de la souffrance politique de l'actuelle Terre Sainte, un article sur De Gaulle et Ben-Gourion, c'est-à-dire De Gaulle et la Palestine, un article aussi de Alfred Coury sur le Liban, un autre sur l'Égypte, un autre sur la Syrie, et puis hors dossier, puisque le dossier prend la moitié de chaque volume faisant à peu près 80 pages, il y a aussi des articles hors dossier, dont un sur lequel j'attire votre attention, sur la France et la mer, une stratégie à retrouver par Thibaut Perrin, qui lui aussi est un jeune homme qui pense bien et qui a le courage d'écrire de très belles choses. Il devient nos chroniqueurs, Thibaut Perrin, il a à cœur de publier dans le Nouveau Conservateur. Nous en savons gré, et il écrit quelque chose de très fouillé sur l'atout énorme de la carte bleue pour la France, alors, si on peut dire, c'est-à-dire la mer.
Deuxième espace maritime.
Deuxième espace maritime, et il faudrait d'ailleurs qu'on ait la marine militaire, l'instrument militaire,
évidemment.
Ça c'est pas gagné, suffisamment développé pour défendre notre espace maritime. Mais c'est notre grand atout. Je disais qu'il y a la terre, c'est-à-dire la superficie de la France et la richesse de notre pays. Et il y a aussi des cartes politiques, évidemment, le droit de veto et puis l'art nucléaire. Mais la mer pourrait être pour nous, si nous ne sommes pas enfermés, comme le voudrait un certain Huntington au nom du choc des civilisations, dans l'Occident en train de péricliter, la mer nous donnera une carte, la mer, la francophonie, les territoires d'outre-mer, les départements d'outre-mer, auxquels nous ne consacrons pas assez, auxquels nous ne consacrons pas assez d'argent. Je suis contre la dépense publique en règle générale, tout au moins ses excès, mais là, il faudrait miser sur la carte maîtresse du jeu français. Je crois que vous êtes d'accord avec moi, d'après ce
oui,
que
je suis tout à fait d'accord.
Je vois sur votre visage,
d'autant plus
Nicolas
que...
Taki.
D'autant plus qu'on sait très bien que la région qui va compter, c'est l'Asie du Sud-Est. Or, nous avons justement des départements d'outre-mer dans cette région-là, avec le cas spécifique, bien évidemment, de la Nouvelle-Calédonie.
Tremblons que M. Macron, tant acharné à détruire la puissance française, s'en prenne à ce fleuron qui est la Nouvelle-Calédonie, qui est riche aussi par ses terres du sous-sol, qui est riche par sa situation géographique, par le domaine maritime.
Encore une fois, c'est formidable la France en matière de diversité, parce qu'en fait, elle est présente aux quatre coins du globe. Elle a de grands voisins, le Canada, le Brésil, l'Australie.
Comme la France est présente un peu partout. Il y a un seul continent.
Le soleil de la France ne se couche jamais.
Voilà. Bon. Alors, décidément, vous voyez, chers amis, nous sommes en bonne compagnie. Voilà, il y a aussi, évidemment, la chronique habituelle de nos amis Jean-Frédéric Poisson, Laurence Trochu, évidemment, Catherine Rouvier, qui tient chronique dans le Nouveau Conservateur, tout le monde y est. Il y a un article sur Charles X, dont c'était l'anniversaire, de Marc Ostier, notre ami Marc Ostier, que beaucoup d'entre nous connaissent peut-être, et puis Luc Le Garsmer, qui a une dimension Radio Courtoisie de plus en plus assurée, l'Urgle Gasmer tient la chronique historique. Voilà, c'était pour ce numéro de janvier. Je fais un peu de retape, hein. C'était non pas la minute, mais les 10 minutes publicitaires pour le nouveau conservateur qui, mon Dieu, quand je l'ai lancé en 2020, n'était pas sûr de tenir la mer. Et finalement, 6 ans après, nous tenons la mer.
Vous prenez le grand large, comme
et
on dit.
Oui, pas trop, parce qu'il faut veiller à tous les grains, vous savez, mon cher Nicolas.
Et aux tempêtes.
Et aux tempêtes. Voilà, on trouve sur le site du Nouveau Conservateur des choses complémentaires. Et on trouve, je le dis avec le rouge au front, mon journal. Je raconte mes jours. Non, pas mes nuits. Mais
journal de bord.
J'écris souvent. Oui, plus modestement que le journal de bord fameux de Jean-Marie Le Pen. Mais je tiens mon journal et je le publie à la fois en partie dans chaque numéro du Nouveau Conservateur, c'est d'ailleurs mon journal qui clôt chaque volume, et puis sur le site, on en trouve un peu plus. Voilà. Je ne dis pas tout, mais j'en dis beaucoup. C'est le propre d'un journal. Alors, Nicolas, ce projet de démantèlement de la Russie, ce projet atlantiste, c'est une vieille idée. Il a été relancé par un institut dont vous allez nous parler en 2022, mais il vient de loin, Nicolas Taki. Dites-nous un peu l'histoire de ce projet de démanteler la Russie.
Alors, tout commence au 19e siècle à travers un groupe d'élite prussien qui s'appelle le Vorenblatt Partei. Et l'un de ses leaders, c'était Moritz August von Bethmann-Hollweg. Et ce groupe d'élite avait déjà...
C'est le grand-père du chancelier.
Exactement, c'est le grand-père du chancelier impérial d'Allemagne au moment de la Première Guerre mondiale, qui s'appelait Théobald von Bethmann-Hollweg. Voilà. Et en effet, ils avaient théorisé déjà le redécoupage de l'Empire tsariste avec la prise des territoires polonais, le confisquer les provinces baltes et même Saint-Pétersbourg et séparer les petits Russes des grands Russes. Enfin, en fait, la petite Russie, ça désigne l'Ukraine actuelle.
Oui, le berceau.
Exactement.
Enfin, c'est pas tout à fait l'Ukraine actuelle, justement, parce que le berceau.
Oui.
D'abord, il a fallu attendre le XVIIIe siècle et Catherine pour rendre à peu près salubre le sud, tout le sud.
Tout le sud,
et ensuite
oui,
construire
Odessa. C'est la conquête et, bien entendu,
conquise non pas d'ailleurs sur d'autres puissances que...
Le Khanat de Crimée. C'était le Khanat de Crimée, oui. Parce que... Voilà.
Sur les Tatars.
Sur les Tatars, oui. Et c'est là qu'ont émergé les villes que nous connaissons tous. Hein, Sébastopol, Odessa, etc. Mariupol. Et,
reconquise de l'autre lutte en 2022.
Évidemment. Pour ce qui est du côté russe. Voilà. Ensuite, la première tentative a été faite au moment de la Première Guerre mondiale. Mmh. Et pour cela, l'Allemagne va financer une structure qui s'appelle Die Liga der Fremdvölker Russlands. En traduit, c'est la Ligue des peuples étrangers de Russie. Et cette structure va être le porte-voix des mouvements séparatistes au sein de l'Empire tsariste, dont un certain Dmytro Donstov, et qui est le théoricien du nationalisme intégral ukrainien, qui va avoir comme disciple idéologique des hommes qu'on connaît à nouveau, Yaroslav Stesko, et aussi surtout Stepan Bandera.
Bandera. Ouais. Je veux dire que l'Ukraine, c'est très clair quand on vous lit, mais on en avait l'intuition, mais c'est encore plus documenté. L'Ukraine est évidemment le levier rêvé de toutes les puissances et les empires qui veulent faire éclater la Russie. D'ailleurs, je crois que vous avez raconté à je ne sais plus qui, peut-être à Pierre-Yves Géron, qui a été un peu votre parrain, que je salue en passant, enfin, pour écrire ce livre.
Et je le remercie de m'avoir édité, oui, aux éditions Perspectives Libres, disponibles sur le site du Cercle Aristote.
C'est peut-être à Pierre-Yves Rougeron que vous disiez, rendons hommage à un autre personnage, que c'est en écoutant François Asselineau que vous avez eu cette idée de...
Tout à fait.
Asselineau parlant de l'Ukraine comme le levier habituel des empires qui veulent détruire la Russie.
Alors oui, parce que, remettons-nous dans le contexte, c'est en septembre 2022, il était intervenu à la fois au plateau de TV Liberté, c'était dans le samedi politique avec Élise Blaise, et il avait aussi fait au même moment une conférence au dialogue franco-russe avec comme présentatrice Irina Dubois. Et c'est là que j'ai découvert l'existence de ce projet de démembrement de la Russie et qu'il existait une structure à peu près équivalente à celle que je vous ai dite, la Ligue des peuples étrangers de Russie, qui s'appelle Free Nation of Post-Russia Forum, traduit le Forum des Nations Libres de la Post-Russie.
C'est la vieille idée allemande la dynastie Bethmann-Hollweg.
C'est ça. Alors, petite information pour ceux qui veulent s'intéresser à ce projet ancien, je vous renvoie à un ouvrage qui s'appelle La Ligue des peuples étrangers de Russie, 1916-1918, une contribution à la guerre de propagande anti-russe de l'Allemagne auprès des peuples étrangers de la Russie pendant la Première Guerre mondiale, et c'est de l'historien finlandais Seppo Zetterberg.
Oui, ça on ne le trouve pas dans toutes les librairies. Hein.
Et surtout quand c'est écrit en allemand.
Ni même dans toutes les bibliothèques. Voilà. Enfin, cette référence montre le soin que vous prenez à tout fondé. Il n'y a rien
Exactement.
À inventer, tout est fondé sur une littérature que vous avez...
Alors,
marchons, parce qu'hélas, nous n'allons pas avoir assez de temps. Hitler a repris ce projet, évidemment. Il était obsédé par l'idée de soumettre
les Slaves. C'est dans Mein Kampf, l'extension du Reich à l'Est. Et pour cela, les Allemands vont s'appuyer...
Hinterland.
Voilà, vont s'appuyer pour bâtir l'Europe nouvelle, Das Neue Europa. Ils allaient donc pouvoir s'appuyer sur les mouvements nationalistes, dont les Ukrainiens, encore une fois, avec l'organisation des nationalistes ukrainiens, et notamment par le biais du collaborateur Stepan Bandera et aussi de Jaroslav Stesko.
Il vivait, je crois, avec un costume SS, un uniforme SS, Bandera, non ?
Ce que je sais, c'est que, par exemple...
J'ai vu deux ou trois photos de lui, il était tout le temps en costume SS.
Alors, moi, ce que je sais, c'est, d'après ce que j'ai lu et vu, c'est surtout que ses compagnons de route ont intégré la division Nachtigall, qui a servi notamment au moment de l'opération Barbarossa, et ensuite, plus tard, la division SS galicienne, et ensuite, à la fin, l'armée insurrectionnelle ukrainienne. Et là, ils se sont battus à peu près contre tout le monde. Voilà.
Avec une férocité terrible.
Ah, oui.
Je crois ni les femmes, ni les enfants, je crois.
Qui ont participé à des pogroms, notamment dans l'Ukraine occidentale.
Oui. Alors,
les Polonais aussi en savent quelque chose.
On peut dire d'ailleurs que l'Ukraine a plus ou moins été politiquement inventée par deux grands esprits, n'est-ce pas ? Le premier, c'était Lénine, qui a accordé une autonomie relative et qui ne fut de courte durée d'ailleurs à l'Ukraine. Ça a été la création de l'Ukraine, mais elle a duré deux ou trois ans de 1918, je crois, à 1920 ou 21.
Et après, c'est la création.
C'est Hitler qui crée l'Ukraine comme État indépendant, mais enfin placé sous sa coupe.
Alors, le Reich Commissariat d'Ukraine, en fait, qui avait pour but, en fait, de préparer la colonisation allemande.
Voilà.
C'est ça l'objectif.
Vous me reprenez, ça s'appelait le Reich Commissariat. Vous avez l'esprit précis, bravo, c'est très bien.
Ouais. Alors, ils ne voulaient pas d'une Ukraine indépendante parce que ça aurait contrecarré justement ce projet d'extension et de colonisation.
Donc l'Ukraine était un peu le pivot en réalité, dans son esprit. Alors, l'idée n'est pas perdue pour tout le monde, malgré la chute du rêve hitlérien, du cauchemar hitlérien. Ce sont bien entendu c'est l'empire suivant, c'est-à-dire nos amis états-uniens qui le reprennent.
Notre cher ami américain, comme dirait Yves Branca.
Alors, Nicolas Taki, dites-moi un peu comment les états-uniens s'emparent de cette idée de démanteler la Russie en commençant par l'Ukraine.
Eh ben, c'est simple, c'est que c'est le commencement de la guerre froide. Comme vous le savez, c'est la confrontation de la nouvelle confrontation de la deuxième moitié de ce siècle. Et donc, ils vont récupérer ces projets, et ainsi que les hommes. Il faut savoir, ils vont récupérer plusieurs collaborateurs. Et encore une fois, les Ukrainiens, et notamment Jaroslav Stesko, qui va s'exiler aux États-Unis. Et il va être à la tête de l'Anti-Bolshevik Bloc of Nations, l'ABN, et qui avait pour but de reprendre un peu ce qui était avant la Ligue des peuples étrangers de Russie, qui consistait.
Je crois qu'il est aussi conseiller d'une institution que nous connaissons bien, la CIA, en même temps, non ? Je crois que c'était ses revenus, non ? Personnage.
En tout cas, il y travaillait. Enfin, c'était assez proche puisque l'ABN avait fait partie de la Ligue anticommuniste mondiale et qui était bien entendu appuyée par la CIA. Mmh. Bien évidemment.
Et la secte Moon, mais ça allait de pair.
Et la secte Moon, en effet, oui. Voilà. Et aussi la mafia japonaise. Enfin. On va dire, c'était le monde libre, mais élargi.
Voilà, les États-Unis savent se trouver des collaborateurs.
Ouais, des anciens nazis, des anciens collaborateurs.
Voilà. Je ne veux pas dire du mal à la secte Moon, parce que, pas trop clairement, parce que c'est grâce à la secte Moon que Jean-Marie Le Pen est passé de 0,7% des voix en 1974 à 11% des voix 10 ans plus tard. En 84, lors des européennes. Bon, enfin bref, quand la secte Moon, lancée par Reagan, a pris en main la campagne de Jean-Marie Le Pen pour nuire à la droite gaulliste. Ça a tout à fait marché, puisque Chirac est tombé en plein dans le panneau. Mais je ne sais pas pourquoi je fais cette digression à propos de la secte Moon, ça n'a aucun rapport. Donc, continuons sur ces personnages. Alors, il y en a un autre qui s'appelle Andrius Almaris.
Alors, ça, nous avançons un peu dans le temps.
Il faut un peu, hélas, oui, avancer.
Nous avançons un peu dans le temps. Donc, nous arrivons en 2022. Et
c'est un Lituanien qui sévit depuis longtemps et qui est notamment député au Parlement européen.
Alors, plus exactement, alors non, il est membre il a été membre du Parti de la Liberté, puis ensuite il a basculé dans le mouvement libéral. Et ensuite, il faut savoir qu'il a été pendant 17 ans dans les forces de défense nationale lituanienne, c'est ce qu'on appelle la CASP. Mmh. Et il a été approché par les néoconservateurs américains, et notamment lorsqu'il a été en mission en Kosovo. Il faut savoir que Andrius Almaris.
Il n'a pas été député lituanien. Alors, député européen.
J'ai pas souvenir. Je sais qu'il s'est présenté aux élections.
Il a des liens avec un des groupes qui s'appelle Renew, qui est
que
nous connaissons parce que c'est celui où siègent les macroniens.
Oui, oui, bien sûr. Bah,
liste.
Oui, bien sûr. Et donc, Andrius Almaris est à la tête de cet Institut des régions de Russie qui a parrainé le Forum des Nations libres de la Post-Russie. C'est cette nouvelle structure, comme je vous l'ai dit, qui soutient ce projet de démembrement. Et il a eu plusieurs relais, notamment par le biais de militants néo-nazis russes, dont notamment Vadim Stepa, qui se trouve, lui, être en lien aussi avec nos chers amis néo-conservateurs américains, notamment le fait est qu'il est analyste à la Jamestown Foundation.
Alors, elle joue un grand rôle, la Jamestown Foundation.
Oui, la Jamestown Foundation, pourquoi ? Parce que c'est
comme
elle.
Beaucoup de fondations états-uniennes qui sont en réalité.
Pourquoi ? Parce que.
Des démembrements, pour le coup, de l'administration
américaine. Oui, parce que la Jamestown Foundation, il faut savoir que c'est elle qui parraine, qui sponsorise aussi ce Forum des Nations Libres de la Post-Russie, qui accueille d'ailleurs le Forum aux États-Unis. Ils soutiennent mordicus le démembrement de la Russie parce que pour eux, il doit rester que la seule puissance américaine et rien d'autre.
Voilà, et c'est, comme vous le dites, assez conforme à des vues géopolitiques qui ont été écrites noir sur blanc dans plusieurs textes. Alors, il y en a un qui n'est pas assez connu, mais il est assez fondateur, si on peut dire, celui de James Burnham. Le projet de domination mondiale, tout simplement, de gouvernement mondial qui serait états-unien et qui surplomberait des petits gouvernements du monde entier, mais disséminés en centaines de petits États fédérés. Voilà.
Ouais, alors, James Burnham, il faut savoir.
Par exemple, la France, je pense, deviendrait 5 ou 6 États d'un seul coup. Et ce vaste éclatement des nationalités deviendrait une vaste fédération dirigée depuis les États-Unis, en fait.
Alors, Burnham, lui, donc, il a écrit pour la domination mondiale, The Struggle of the World. Et en effet, il disait dans ce livre qu'il fallait créer un gouvernement mondial, une fédération impériale dirigée par les États-Unis, et que pour imposer cela, soit il fallait le faire soit par la guerre, soit par l'intimidation. Donc, en fait, il y avait tout le programme. Et après, bah, comme autre auteur, bah, on peut citer Zbigniew Brzezinski, qui a écrit dans le livre « Le grand échiquier, la stratégie américaine qui consistait à étendre l'OTAN et à faire adhérer l'Ukraine ».
Oui, ça, c'est écrit noir sur blanc.
Ça, c'est écrit noir sur blanc, et ça, c'est en 1997.
97, oui.
Et le livre de James Burnham, il date de 1947. Donc, on voit que à travers ses écrits, il y a une continuité. Voilà.
Il y a beaucoup de personnages, Rockefeller, par exemple, et plusieurs sénateurs, par exemple, qui ont fait des gammes intarissables sur le thème de la domination impériale définitive des États-Unis sur un monde entier morcelé, à commencer par le morcellement du gros morceau, c'est-à-dire la Russie. Voilà.
Oui, oui, en effet. Et sachant que s'ils soutiennent ça, ce n'est pas soi-disant pour libérer les peuples, c'est bien entendu pour s'accaparer les ressources énergétiques et minières de la Fédération de Russie.
Oui, ils se présentent toujours comme libérateurs. Il y a une phrase du général de Gaulle que j'aime beaucoup. Ceux qui s'imaginent que les États-Unis, il dit les Américains d'ailleurs, sont venus libérer la France, ont des cerveaux de colibri. En réalité, ils venaient libérer la France comme les Russes venaient libérer la Pologne. C'est-à-dire au fond, pour les faire passer de leur côté.
Ouais.
Bref, donc cette littérature américaine sur la domination mondiale, on la trouve un peu partout. On la trouve chez Huntington aussi. Mais mon cher Huntington, et ce livre,
Le choc des civilisations,
ça fait partie aussi de cette idée que, en tous les cas, le monde blanc, dans lequel évidemment la France est ramassée dans les filets illico presto, a une capitale, c'est Washington. Et ce qui est étonnant, c'est que ce livre, Le choc des civilisations, comme celui de Zbigniew Brzezinski, Le grand échiquier, a reçu un écho très favorable dans les...
Ah ben, il a été promu par le Council on Foreign Relations dans sa revue Foreign Affairs.
Oui, auquel appartient nos ministres, M. Haddad. Bon, mais passons. Un des ministres actuels, hein, je le signale.
Alors, Haddad, c'est l'Atlantic Council et le Hudson Institute. Et il faut savoir que le Hudson Institute est l'un de ces think tanks qui appuie le Forum des Nations Libres de la Post-Russie.
Bon, alors on a déjà pas mal de choses à se mettre sur la dent. Une petite récréation musicale. Vous avez choisi, mon cher ami, une musique dont le titre m'échappe parce que je crois que...
Rise.
Je crois qu'il faut le dire Rise, n'est-ce pas? On va l'écouter d'un certain... j'oublie toujours son
Craig
nom.
Craig Armstrong.
Bon, je rechigne un peu, je vous dis la vérité. Je trouve que ça ne nous manque pas, la musique américaine, vous comprenez? Je voudrais écouter de temps en temps un peu de la musique des steppes d'Asie centrale, ou un peu de musique indienne, ou un peu de musique persane, ou un peu de musique grec, par exemple, du Grand Nord, la Norvège, peut-être un petit peu de musique russe aussi, des chants slavons. Pourquoi choisir, mon cher Nicolas, je vous taquine, qui bene amat bene taquinat, de la musique américaine?
Eh bien, tout simplement parce que cette musique, ça vient d'un fait, un film qui m'a passionné, qui est The Negotiator.
Le négociateur en français.
Le négociateur.
Parce que des fois, je traduis.
En effet, oui, oui.
Dans la langue vernaculaire.
Oui, c'est avec Samuel Lee Jackson et Kevin Spacey, et ça raconte justement l'histoire d'un thriller et d'un complot avec une révélation à la fin, et quelque part, c'est un peu le thème de mon sujet.
Alors, écoutons cette musique.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75016, Paris.
c'est une musique qui n'est pas révolutionnaire, mon cher Nicolas. On a beaucoup entendu ce genre de choses, mais elle vous plaît.
Elle me plaît parce que...
Elle est évocatrice pour vous, c'est ça.
C'est évocateur par rapport à mon livre, parce que voilà, mine de rien, ce que j'explique, c'est... En fait, c'est un complot, tout simplement. Un complot qui vise à détruire une puissance comme la Russie et au passage détruire une puissance nucléaire qui possède 5459 ogives.
C'est une démence.
Dont 1718 déployés.
Oui, c'est une démence, d'autant que la Russie est désormais dotée d'armes
hypersoniques
que personne d'autre n'a, y compris pas l'Empire états-unien, donc il ferait mieux de se tenir tranquille. C'était une démence, ce rêve des faucons. On dit néo-conservateurs, mais ça ne me plaît pas trop, parce que la plupart du temps, ils étaient démocrates, à commencer par Brzezinski.
Et au passage, James Burnham, il a été avant trotskiste.
Oh, oui, oui. C'est notre ami...
Laurent Ozon,
qui a, je l'ai convié à une précédente émission du Nouveau Conservateur, réplique du Nouveau Conservateur, je crois que c'était en octobre. Laurent Ozon a écrit un très beau livre sur la généalogie des néoconservateurs qu'il fait remonter à ces penseurs juifs, pour la plupart d'ailleurs, et très démocrates de gauche, qui ont contribué puissamment, d'une part, à la chute du tsar, et puis ensuite à l'installation du communisme avec les heureuses suites que nous vîmes. C'est des fameux cocos, hein, ces nouveaux conservateurs.
Oui.
Enfin, là, ils ont échoué, donc.
Oui, pour l'instant, ce projet, après presque 4 ans de conflit, n'a pas abouti. Hein. En fait, ce qu'ils espéraient, c'est, d'un côté, avec toutes les sanctions financières, hein, et... Il y a eu, je crois, 20 paquets de sanctions.
Oui, il y a des vagues chaque année, depuis 15 ans. Ouais.
Et, donc, et aussi, éjecter la Russie de SWIFT, ils espéraient créer un effondrement économique.
Ben, je crois qu'il y a un de nos ministres qui l'a même dit tout haut.
On va mettre à genoux l'économie russe. Qui est-ce qui disait ça déjà? Un certain Bruno Le Maire.
C'est ça, je croyais que son nom allait être oublié dans les abîmes de l'histoire, mais il a réussi à refaire parler de lui en étant ministre 3h30. Au mois d'octobre, et quand on a appris qu'il était nommé par le nouveau Premier ministre français, ça a été une telle levée de bouclier qu'il a disparu aussitôt. « Si vous le voulez, je m'en vais », nous a-t-il dit. Et il est parti. Alors bref, on n'a pas réussi à mettre la Russie.
Et la deuxième tentative, ça a été avec... je veux dire par là qu'il y a les sanctions économiques, et ensuite, après, il y avait toute l'aide militaire envoyée à l'Ukraine. Ils espéraient donc créer un effondrement sur le front, et effondrement militaire et économique, de fait créer un effondrement politique et au changement de régime et à la mise en application de ce projet de démembrement de la Russie.
Alors, le démembrement, Nicolas Taki, je rappelle, auteur d'un très bon livre, vraiment ce qui s'appelle un bon livre, important, argumenté, charpenté, qui s'appelle Le projet atlantiste de démembrement de la Russie, paru aux éditions
Perspective Libre.
Perspective du Cercle Aristote. Donc, ça consiste en quoi, ce démembrement? Combien d'États ces braves messieurs de la Jamestown Foundation pensaient ériger sur les ruines de la Russie?
Alors, au moins entre une trentaine et une quarantaine d'États, dont le plus comique, les États-Unis de Sibérie, au centre.
Alors,
avec un drapeau.
Il y a dans votre livre une carte sidérante, oui, avec un drapeau. Je ne sais pas si vous l'avez sous la main, si vous pouvez la montrer à la caméra. C'est sidérant. Avec un drapeau qui ressemble presque au drapeau des États-Unis en
Alors,
plein centre.
Voici la carte de démembrement de la Russie. Et voici le fameux drapeau de la République, les fameux États-Unis de Sibérie.
Avec le
drapeau américain.
Et à droite, on voit le drapeau de la République baltique de Königsberg.
C'est ça, oui, qui remplacerait l'oblast de Kaliningrad.
Voilà.
Voilà.
Et les autres États, alors il y a la Sibérie qui intéresse beaucoup les États-Unis. Il y a la Sibérie, il n'y a pas centrale, il y a la Sibérie qui est en bleu sur votre schéma. Je ne sais pas comment il s'appelle, oui, celui-là.
Ah,
c'est un immense État.
Alors, celui-là, en fait, c'est la République de Sakha. En fait, c'est là où il y a, par exemple, les peuples... comme les Yakoutes, oui, voilà. Et en fait,
extrêmement riche en ressources du sous-sol.
Ressources du sous-sol et notamment en or.
Et en or. Non. Et bien sûr, évidemment, il faut mal dessus.
Et bien entendu, la Sibérie, il n'y a pas très loin les fameux pipelines, les fameux gazoducs qui vont alimenter la Chine. Et notamment, celui qui est en construction, le Power Siberia 2. Ouais. Et oui, parce que comme on a coupé les ponts avec la Russie au niveau du gaz et du pétrole, et ben, cela va alimenter la Chine et l'Inde, et qui, au passage, nous le revend à plus cher.
Voilà. Et combien d'États pensaient ces messieurs, ces grands découpeurs de pays? Il y a aussi les découpeurs de la France. Hein. La France a failli être transformée en quatre États, au bon soin de M. Roosevelt en 1944. Hein. Bon, il y avait la France qui restait, plus une grande Belgique qui allait jusqu'à Nancy, plus un État libre d'Alsace, et puis ensuite toute la rive gauche du Rhin, je signale, hein, ça faisait partie des plans de Damgoud qui étaient donnés en Italie en compensation de je ne sais trop quoi. Bon, là maintenant, le découpage de la Russie, c'est 50 États, vous dites?
Entre une trentaine et une quarantaine d'États, oui, dont la Carélie, la Laponie, la Tchétchénie indépendante, la Circassie. C'est en fait s'appuyer sur les fractures culturelles et ethniques.
Évidemment.
Comme à chaque fois.
Mais c'est
comme il faut savoir qu'il voulait faire pareil avec le Proche-Orient. Hein. Je rappelle cette fameuse carte du lieutenant-colonel Ralph Peters qui prévoyait un redécoupage des frontières sur les critères ethnico-religieuses. Et cette carte est de 2006. Elle a été sortie dans la revue Armed Force Journal dans son article Blood Borders.
Bon.
Donc, ce n'est pas nouveau. Et aussi autre chose, vous avez récemment l'un des participants de ce forum, vous avez Günther Fellinger, qui au moment de la guerre des 12 jours entre l'Iran et Israël, avait publié une carte du démembrement de l'Iran.
De la Perse.
Donc, ce participant autrichien du forum ne fait que recycler des concepts qui ont été déjà développés il y a de cela 20 ans.
Alors, mon cher Vladimir, je crois que vous êtes au bout de notre téléphone, Vladimir Fedorovitch. Je suis heureux de vous entendre.
Quel plaisir. Je n'ai pas perdu mon accent.
Ah, mais écoutez, je l'aime tant
quel,
que parce
quel
que...
Quel plaisir, je vous savez.
Je rappelle toujours celui de ma grand-mère.
Je viens avec vous avec... c'est très intéressant pour moi.
J'ai un jeune homme très sérieux, là, qui a beaucoup enquêté sur ce plan de démantèlement de la Russie.
Bonjour.
On a discuté ça au colloque, notamment
au
Parlement européen. Vous savez, je vais vous dire, vous savez qu'on vit maintenant, j'ai hésité beaucoup, au début j'ai pensé que c'est les contes Andersen.
Oui.
Vous comprenez, le roi est nu, etc. Et maintenant, je suis arrivé à la conclusion que c'est Ionesco, le théâtre d'absurde, ce
oui.
qu'on vit. Malheureusement, on vit souvent dans les choses imaginaires. Et c'est très grave, parce que vivre dans le monde imaginaire, c'est très grave. Il y a une petite différence entre les gens qui vous suivent.
C'est une maladie de vivre dans le monde imaginaire. Hein. Maladie de l'esprit.
Mais vous savez, je vais vous dire, en soi, c'est pour moi du pain béni, parce que j'écris des livres, je vais vous raconter, je vais sortir un livre absolument explosif, on va présenter ça, on a fixé déjà la date.
Ah, ça, vous m'avez promis de venir le 6 mai prochain à Radio Courtoisie.
Pour moi, c'est du pain béni.
Oui.
Du pain béni, mais le problème, c'est que quand on raconte ce genre d'histoire, ça influence les gens, ça influence l'opinion publique, etc. Il y a un petit bémol par rapport à ce que les gens vous racontent et moi-même. À la différence d'eux, j'étais au Kremlin. Et je tiens à vous dire... Déjà,
vous étiez très proche de Gorbatchev, par exemple, un collaborateur de Gorbatchev.
Sûr,
vous avez connu tout le monde, Elstine, etc. Tout le monde.
Vous souvenez,
et Poutine.
Je vous ai donné un cadeau. Vous vous souvenez, nous avons fait...
Un des plus beaux cadeaux que j'ai reçus de ma vie, deux conversations avec Vladimir Fedorovski pour TV Liberté. On les trouve encore, il suffit de taper votre nom, Vladimir et TVL, et on trouve nos deux conversations.
Mais surtout, vous savez, je tiens à souligner, je vous ai donné autrefois la primeur quand on a fait ensemble le portrait,
de Poutine.
Vous savez, de Poutine, assez... assez étonnant. Il y avait six Poutines. Poutine, comment elle était formée par la pègre, comment elle était à Saint-Pétersbourg, comment elle était quand il était espion. Mais surtout, quand j'ai donné les clés psychologiques de
ça. C'est formidable.
Et vous savez, je vais vous dire,
formidable
cette
conversation.
Émission, paradoxalement, on a fait un bon score,
oui.
Mais maintenant, les gens, je suis submergé par les appels, ça va vous étonner. Il y a un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps.
Ah.
Et c'est un film qui vous savez, c'est une invention.
Le mage.
Le mage. Mais le problème, c'est que l'invention, quand on vit aussi dans l'invention,
le mage
dans
du Kremlin,
la fiction,
il faut dire
les
le
gens
titre dans son entier.
Veulent connaître la vérité. Et nous avons donné, c'est une longue enquête que je vous ai donnée autrefois, et c'est pour ça que pour moi, c'était important de donner les clés pour éviter vivre dans l'illusion, vendre la peau de l'ours avant de le tuer, et surtout prendre ses désirs, ça revient à votre carte, prendre ses désirs dans les choses.
Vous
savez, je vais vous dire, où il y a un consensus maintenant. Il y a deux choses où il y a les choses vraiment sérieuses. Vous savez, on a détruit le système, j'ai construit autrefois ce système par mes propres mains, c'était le système de contrôle des armes. Il n'y a plus de contrôle des armes. Et dans la Russie, maintenant, à 6 000 têtes, 6 500 têtes pour être nucléaire,
5 459 selon Cypri.
5 459.
Oui, je vais vous dire, ça c'est... mais enfin, je ne vais pas contester.
Oh, c'est pas loin, c'est pas loin. 1 000 près.
Occidentaux, peut-être. Peut-être, mais à peu près, on est d'accord sur cet aspect. Mais je tiens à souligner, il y a plusieurs noms que vous ne connaissez pas nécessairement, Bourré-Vesnik. Vous connaissez Oreshnik. Oreshnik, vous connaissez, c'est une fusée... les Russes ont travaillé depuis longtemps ça, ils ont une avance de 5 ans au moins, peut-être
sur
même
tout
plus,
le monde, oui. C'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Sur ces armes, et ces armes, ils leur donnent l'avantage. Pourquoi c'est dangereux de parler de ça dans l'air, je vous dis, compte en Dersen au théâtre Ionesco? Parce que quand on vit dans le monde d'illusion, on peut tomber dans l'abîme. Nous avons, quand j'étais aux affaires, quand j'étais diplomate, vous savez, nous étions près de l'abîme, mais je tiens à vous dire, on a analysé ça comme dans notre fameuse émission que je suis fier qu'on a fait autrefois, dans votre cadre.
Alors, c'était il y a un an, Vladimir, je vous coupe, parce que sinon vous n'allez pas le dire vous-même. C'était très amusant, parce que c'était à peu près il y a un an, en mars ou avril 2025, TVL l'a diffusé à ce moment-là, et quand on l'a enregistré, tout le monde était dans l'enthousiasme de l'élection de Trump, et tout le monde disait, après avoir cru Trump qui disait « je règle la question ukrainienne en 24 heures », tout le monde disait « il va la régler en quelques mois ». Et quelqu'un a levé le doigt, c'est Vladimir Fedorovski qui a dit « ouh, mais moi je connais Poutine, ça ne va pas aller si vite que vous ne croyez ». Et un an plus tard, la preuve est faite.
On était prémonitoire.
Bravo, prophétique, Vladimir.
Non, mais on était ensemble prémonitoire. Et vous savez ce qui m'a inspiré, c'est votre cadre exceptionnel. On a filmé ça dans votre appartement.
Bah,
et
c'est
vous
mon
créez
salon.
L'ambiance. Moi, j'étais inspiré par ça, à tel point que, vous comprenez, cette influence, je vous dis, je suis submergé maintenant par les films, je conseille à tout le monde, d'ailleurs, de regarder notre émission, parce que dans les fictions, on raconte parfois pas des choses précises. On vit dans les choses, dans les inventions, dans le monde virtuel, comme votre carte. Tandis que nous avons donné les éléments d'analyse, nous n'avons pas jugé. Nous avons donné les éléments de l'analyse de personnalité, des faces cachées de Poutine et tout ça. Et ça, c'est... Et vous savez, dans la filière de ça, je vais faire quelque chose de très subversif pour vous dire. Je vais raconter le vrai magicien du Kremlin, le vrai mage du Kremlin, parce que on raconte ce personnage qui est à l'origine de ça. En réalité, c'est un sous-fifre qui n'a pas joué le rôle qu'on a attribué du tout. D'ailleurs, il a déjà géré 18 milliards de fonds qui sont plus ou moins disparus. Tout ça, c'est pas du tout ce qu'on... c'est pas vrai. Mais j'ai connu un vrai mage du Kremlin. Et ce mage du Kremlin, c'était... Il a tué le communisme. Il a tué la guerre froide, il était numéro de Gorbatchev, un grand sage, vous ne le connaissez pas, numéro, il s'appelait Yakovlev.
Et ah si, Yakovlev, bah si.
Alexandre Yakovlev, vous connaissez, mais le grand public ne le connaît, parce que vous savez, il s'en fout. C'est vraiment quelqu'un qui était derrière les événements majeurs. Mais mon livre, qui s'appellera dans le titre, il était boiteux, je l'appelle le diable boiteux au Kremlin, le diable boiteux.
Comme le nôtre.
Au Kremlin, je vais sortir ça dans quelques mois. Comme Talleyrand. Oui, absolument, comme Talleyrand, mais simplement, lui est plus dans Dostoïevski, c'est un vieux sage, un peu les choses comme ça. Et il m'a laissé un document étonnant. Vous savez, c'est quelqu'un qui est apprécié dans le monde entier, comme l'a tué le communisme, vous comprenez, ça c'est ça quand même quelqu'un, les gens ici le savent, son rôle joué. Mais pour aller dans le sens de votre émission d'aujourd'hui, il a disparu en 2005. Et avant de disparaître, il m'a laissé un document. Et les vieux sages de chez nous, les gens, ils ont non seulement le don de porter les gens vers la lumière que dans les grands monastères, mais ils ont parfois le don prophétique. Et vous savez, tout d'abord, dans ce document, il a prévu la guerre inévitable de la guerre en Ukraine. Mmh. Et il a prévu son monde de virtuel, son monde quand on... vous savez, quand on ment et croit ses propres mensonges, pour abréger, vous comprenez,
c'est ça,
quand
la maladie,
on mélange la propagande,
c'est la démence,
la propagande et la politique réelle, on constate ça chaque jour, la propagande et la politique réelle. Dans la réalité, parfois, la propagande remplace la politique réelle. Mais
chez les États-Unis, oui.
Dans ce document, les États,
les élites des États-Unis.
Pourquoi cette guerre est devenue inévitable? Quand ça a commencé, il y a beaucoup d'années, comment ça s'est passé avec Napoléon qui prenait ce désir pour la réalité, comment ça s'est passé avec la guerre de la Crimée, comment ça s'est passé, vous savez, il y avait une intervention déjà des Anglais, etc. Il analyse un truc complètement ahurissant, personne ne le connaît, en 1940.
Alors mon cher Vladimir, il faut que je vous coupe, parce que ça c'est le sujet de votre livre qui va sortir au mois de mai, et pour lequel, en exclusivité, vous allez nous accorder un entretien le mercredi 6 mai,
mais
n'est-ce pas,
Vladimir ? Je vous donne la primeur pour notre amitié.
Encore
mais,
une fois.
Vous savez, j'espère bien que je vais retrouver le cadre fameux qui est si chaleureux, parce que...
Ah oui, ma salle à manger, bon, écoutez, elle devient très célèbre, ma salle à manger. J'ai compris, quand on m'en fait des éloges, j'ai compris qu'on veut venir dîner. Mais j'aime beaucoup votre femme que j'ai rencontrée, je crois, chez des amis communs, et vous allez venir tous les deux dîner bientôt, voilà. Mais on va se retrouver à Radio Courtoisie le 6 mai, Vladimir.
Mais je vous parle de cadre, parce que votre cadre, pour moi, c'est symbolique, parce que, vous savez, la France n'est pas morte.
Et bien la Russie non plus.
Absolument, évidemment, ça va sans dire, parce que ce qu'ils vous racontent avec ces... Ils sont affolés. Pourquoi ils publient ces cartes? Parce que, vous savez, comme ils se sont trompés, ils essayent de persister. Je leur fais persister dans leurs erreurs. Vous savez, je leur dis, faites attention. Il faut, quand vous faites les erreurs, il faut tirer des conclusions. De la fameuse phrase de « je vais mettre la Russie à genoux en 2 semaines », tout ce qu'on a raconté, tout est sur l'Internet, tout est là, et c'est pour ça qu'il faut vraiment analyser ça à sa juste valeur. Je suis fier d'être aujourd'hui avec vous, je suis volubile.
Pour constater qu'une fois de plus, la Russie a tenu, et vraiment, je suis très heureux d'avoir reçu, hélas, l'émission s'achève, d'avoir reçu aujourd'hui Nicolas Taki, esprit très sérieux, historien d'avenir à mon avis, avec beaucoup d'appareils scientifiques, il a montré l'énorme machine de guerre lancée par les empires et surtout l'empire états-unien pour détruire la Russie.
Et pas seulement la Russie, il y a aussi la Chine, l'Iran et la Corée du Nord qui appellent ça comme le nouvel axe d'agression.
Voilà, et je pense que Vladimir a mis le doigt sur le point important, c'est la démence. C'est la démence qui s'empare au fond du super-empire.
L'hubris,
évidemment. Tout ça, sa sagesse. Merci Vladimir. Alors, nous avons pris deux décisions. Venez dîner avec votre femme, s'il vous plaît, dans cette fameuse salle à manger où sont tournées les...
On a dîné tant de fois ensemble que...
les conversations de TVL sont en effet filmées dans cette salle à manger qui devient célèbre. Et puis, le 6 mai, vous venez nous présenter vraiment en avant-première votre prochain livre. Je vous remercie beaucoup.
Le vrai mage du Kremlin. Et ça s'appelle, comme vous avez compris, Le Diable Boiteux.
Le Diable Boiteux.
Le Diable Boiteux.
Votre Diable Boiteux, Yakovlev.
Le magicien de Moscou, voilà.
Alors, je sais que vous êtes dans le sud de la France. Reposez-vous bien, mais je sais que vous ne vous reposez pas. Vous êtes un esprit trop brûlant pour ne pas écrire.
Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, mais le soleil extraordinaire est 18 degrés.
Gardez bien votre chapeau sur la tête, Vladimir. Votre célèbre chapeau, qui est aussi célèbre que ma salle à manger. À bientôt, Vladimir.
Au revoir.
Alors, mon cher Nicolas, l'émission touche à sa fin. C'est allé comme un bolide. Enfin, vous reviendrez. Vous allez continuer. Qu'allez-vous faire maintenant?
Qu'est-ce que je vais faire? Il y a un deuxième ouvrage que je prépare. Et j'espère le terminer cette année.
Alors, à bientôt. La semaine prochaine, nous parlerons encore de géopolitique avec François Martin et Nicolas Mikulić. Et d'ici le mercredi prochain, chers auditeurs, je vous souhaite une bonne semaine. Et surtout, je finis par l'incantation habituelle qui était celle de mon vieil ami Hervé Couteau-Bégari, « Domine sanctam fac galliam ».
Vous venez d'entendre les répliques du Nouveau Conservateur dirigé par Paul-Marie Couteau, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mercredi 11 février 2026, de 16h à 17h. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.